Bien, donc nous remercions encore la librairie Mola et toute son équipe de nous accueillir encore une fois pour accueillir et recevoir François Ansermé. François Ansermé est l'incarnation de l'homme du gai savoir, ouvert à tout, toujours en devenir, faisant preuve d'une sagacité, d'une pénétration faite d'intuition, de finesse et de vivacité d'esprit. Lui qui s'intéresse tant à la prédiction sait ne pas savoir, parce que sa curiosité toujours vive et généreuse aime la contingence de l'inattendu. Depuis son premier livre, Clinique de l'origine, il soutient la thèse que l'enfant ramène à l'inconnaissable de ce qui sera plutôt qu'à l'originaire. Pour lui, donc, l'origine reste toujours à venir, ouvrant à l'avenir, et son dernier livre, Prédire l'enfant, dont il va parler aujourd'hui, nous en offre encore une illustration magistrale. Malgré la prédiction, comme le disent eux-mêmes les généticiens, il y aura toujours de l'immaîtrisable. Son livre soutient une dialectique parfois vertigineuse entre la prédiction et l'incertitude du devenir. D'où la place de la psychanalyse et surtout la rencontre avec un psychanalyste, car il permet au sujet de donner ses expliques sur l'inexplicable de ce qui lui arrive dans la contingence et de ne pas le ramener à ce qui a été prédit pour lui. On pourrait dire qu'au fond, l'analyste, lui, est tout près des dits du sujet, là où se joue sa singularité. Pour se présenter son livre, ce sont justement deux psychanalystes, Martine Vercel, qui est aussi déléguée régionale de l'ACF et qui a organisé aussi cette présentation, et Daniel Lacadella-Bro, qui vont donc discuter avec lui sur son livre. En présentant son livre, il fera référence à un autre ouvrage remarquable que vous avez à l'entrée, qui est sur la table, Serendipity, qu'il a écrit avec l'artiste Prune Nourri aux éditions Actes Sud en 2018. La Serendipity, peut-être qu'il le précisera, c'est un néologisme qui désigne la faculté de découvrir par hasard et sagacité des choses que l'on ne cherchait pas. Tout l'enjeu étant de s'en saisir ou pas, précise-t-il, de se risquer à en faire usage. Ces deux livres, donc, Prédire l'enfant et Serendipity, en sont des brillantes démonstrations. Si vous me permettez, je voudrais introduire ici le lien d'amitié que j'ai avec François, car dans ce lien, on trouve cette notion de Serendipity. Lorsqu'il me proposa de publier dans la collection qu'il dirigeait à ce moment-là, Payot Psyché Lausanne, un livre à partir de certains de mes articles, et les relisant, j'y découvris que tous contenaient à mon insu une référence à une leçon fondamentale de Lacan, le malentendu. Je lui en fis part, tout en lui disant que j'en ferai le titre, d'où ce livre, Le malentendu de l'enfant. À ma grande surprise, lui qui sait tout, il me répondit qu'il ne connaissait pas cette leçon. Mais surtout, quelque temps après, comme il aime beaucoup visiter les musées, juste un peu plus tard, lors donc de ses nombreuses visites dans des musées, il m'envoya une carte postale, le tableau Magdalena Ventura avec son mari de Giuseppe de Ribera, tableau qui est plus connu sous le nom de La femme à barbe. C'est un tableau où on voit une femme, qui est donc la femme à barbe, donnant le sein à son enfant. Et recevant cette carte postale, je décidai donc, par un effet, j'en fis usage, de Serendipity, d'en faire la couverture du livre. D'ailleurs, il me précisa ce matin par mail. Je vais vous le lire. Oui, en effet, le malentendu nous lit. J'avais fait un texte dans la lettre mensuelle, éloge du malentendu, en ignorant en effet le texte de Lacan sur ce thème. En venant à Bordeaux, invité par toi, parce qu'il se trouve qu'il vient souvent à Bordeaux, tu m'as parlé de ce texte de Lacan de 1980, tu m'en as donné une photocopie que j'ai toujours gardée dans le carton de vin de Bordeaux que tu m'avais aussi offert. Depuis, dans cette confrontation aux biotechnologies, le malentendu est devenu une référence. Malentendu de l'origine, du genre, de la filiation et de la descendance. Il y a un effet de sérendipité dans le malentendu. Alors, dans son dernier livre, il fait souvent référence à cette leçon de Lacan. L'homme naît malentendu. Le sujet fait son irruption comme malentendu. Le malentendu serait donc transmis entre générations et s'enracine dans la généalogie. C'est ce qu'elle vous a transmis en vous donnant la vie. C'est de cela qu'on hérite. Ainsi, précise François Ansermet, on hérite pas seulement de gènes, mais aussi de multiples malentendus. Et c'est bien de là qu'il fait valoir sa position de psychanalyste. Alors, François Ansermet, il est professeur honoraire de psychiatrie d'enfants et d'adolescents à l'Université de Genève et à l'Université de Lausanne. Il a été longtemps médecin-chef de service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des hôpitaux universitaires de Genève. Il est psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et aussi de l'Association mondiale de psychanalyse. Il est auteur de très nombreux livres. Je ne vais pas tous les citer, mais vous les avez... je vais quand même en citer. Vous avez donc « Clinique de l'origine » dont j'ai parlé, « La fabrication des enfants », « Un vertige technologique » aux éditions Odile Jacob, qu'il a écrit aussi avec Pierre Magistretti, « À chacun son cerveau » et « Les énigmes du plaisir ». François Ansermet aborde dans ses nombreux livres les défis éthiques et cliniques qu'impliquent les progrès de la médecine, qui nécessitent d'aller au-delà d'une vision déterministe du devenir, en accueillant et en soutenant les réponses toujours singulières qu'inventent les enfants et les adolescents, à travers lesquels ils se font les auteurs et les acteurs d'un devenir toujours fondamentalement imprévisible. Par le fait du développement des biotechnologies, notre époque vit de multiples vertiges, touchant notamment à la procréation assistée, aux nouveaux modes de généalogie et de filiation, au positionnement singulier quant au genre, au maniement des possibilités de la prédiction génétique. D'où viendront les enfants de demain? Quel avenir les attend? Sa formation psychanalytique lui a permis très tôt d'œuvrer pour le dialogue entre les approches psychanalytiques et neurobiologiques, en particulier à travers une fondation qu'il a créée à Genève, la Fondation Agalma. Il a aussi participé au pôle de recherche national Synapsie avec le professeur Pierre Magistretti, axé sur l'étude des bases neurobiologiques des troubles psychiatriques, liant recherche clinique et fondamentale. Son travail sur les conséquences subjectives de la procréation médicalement assistée, sur le choix du genre en cas de variation de la différenciation sexuelle ou de problématiques transgenres chez les enfants et les adolescents, ainsi que la médecine prédictive, lui a fait qu'il a été nommé en 2013 membre du comité consultatif national d'éthique en France. Donc, je vous passe la parole pour, après cette présentation. Je précise que François Ansermet est venu plusieurs fois déjà à la librairie Mola.
Bon, on va avoir une conversation ensemble. Bien sûr, après l'introduction de Philippe Lacadet, je vais juste dire un petit mot en introduction sur le malentendu, parce que dans l'éloge du malentendu, tout ça est parti de l'éloge du malentendu. Donc c'est vrai qu'il l'a très bien résumé. C'est-à-dire que c'était un texte que j'avais fait dans la lettre mensuelle, mais qui était issu, je crois même qu'aussi je l'avais envoyé à Daniel Lacadet, qui était issu de mon travail en médecine, et en particulier en pédiatrie, en néonatologie, en fœtologie, en médecine de la reproduction. Et je disais que pour travailler dans ces lieux-là, il faut supporter le malentendu. Pas seulement, il faut utiliser le malentendu. Il faut se servir du malentendu. C'est-à-dire, d'ailleurs, dans le texte de Lacan que Philippe m'a remis, dans une des photocopies vertes. Je me souviens très bien des photocopies vertes dans un carton jaune sur des bouteilles de rouge. Donc, effectivement, dans ce texte, Lacan dit « L'exploit de la psychanalyse, c'est d'exploiter le malentendu. » Et que là, on peut dire qu'ensemble, on a vraiment exploité le malentendu. Puisque Philippe Lacadet a pris la décision, suite à des échanges qu'on a eus, de rassembler des textes dans le livre qui s'appelle « Le malentendu de l'enfant », que je lui ai envoyé cette carte qu'il a citée de la femme à barbe, alors que depuis, je travaille beaucoup sur la question des transgenres et des disruptions dans le genre. Enfin, comme si tout s'était joué à Bordeaux, autour d'un malentendu sur le malentendu, hein, et à travers un non-savoir. Alors, l'histoire, peut-être, qui est importante, c'est la sérendipity. Parce que là, c'est vraiment une sérendipity, typique sérendipity. C'est-à-dire qu'on a des échanges et on trouve autre chose que ce que l'on cherche. Moi, je venais à Bordeaux, il faudrait retrouver exactement de quoi j'ai parlé, mais je ne sais plus en ce moment. Mais au fond, à partir de là, ça s'est noué autour de la question du malentendu, qui est devenu un livre fameux de Philippe Lacadet, qui oriente la clinique avec les enfants, et puis qui est aussi devenu, pour moi, comment est-ce qu'on pourrait dire, un levier pour penser les pratiques nouvelles, c'est-à-dire les malentendus de l'origine, avec les procréations assistées, les dons de sperme, dons d'ovules, enfin, on est en plein malentendu, les malentendus dans la différence des sexes et les malentendus dans la prédiction, où souvent, il se passe autre chose que ce qu'on avait prédit. Alors, le terme « serendipity », effectivement, est central, et c'est un terme qui a maintenant bien connu, mais c'est un terme de Horace Walpole dans une lettre du 28 janvier 1754 à son ami Horace Mann, où il dit « La serendipity, c'est la faculté de découvrir par hasard des choses qu'on ne cherchait pas. » Bon, vous connaissez la serendipity qui, depuis, a été très mise en avant dans les recherches scientifiques, par exemple avec la pénicilline, avec Fleming, ou bien les Röntgen, les rayons X. Mais il y a de multiples exemples de serendipity où les personnes trouvent autre chose que ce qu'ils cherchaient. Qu'est-ce qu'on comprend dans la serendipity ? C'est que l'important, c'est d'avoir ce que Walpole appelle la sagacité, de se servir de ce qui surgit. C'est-à-dire que quelque chose surgit qu'on n'attendait pas, et l'enjeu, c'est de savoir si on va s'en servir ou si on va le laisser passer. Peut-être que Fleming aurait pu dire « Mais qu'est-ce que c'est cette laborantine ? Rien n'a poussé dans cette boîte de pétri. Je vous renvoie du laboratoire. » Puisqu'en fait, ce que je vous avais demandé, c'était de cultiver des bacilles. Oh non, il se dit, mais il a la sagacité de se dire, mais qu'est-ce qui se passe pour que ça ne soit pas le cas? Et au fond, peut-être pour nous, analystes, comme pour nous, cliniciens, c'est peut-être la difficulté. Est-ce qu'on a la capacité de se saisir des choses contingentes, inattendues, qui surgissent et qui sont peut-être comme un effet parasite ou un effet imprévisible qui ne correspondent pas à notre raisonnement, qui ne sont pas dans ce qu'on avait pensé du cas, peut-être même différent de ce que avait été élaboré dans un contrôle ou dans un cartel ou dans un séminaire. Et cet élément qui surgit, qui est à côté, qui n'est pas ce qu'on cherchait, qui n'est pas ce qu'on pensait, est-ce qu'on a la sagacité de s'en servir, de se servir de cette contingence? C'est pour ça qu'on pourrait dire que l'analyste est effectivement un praticien de la sérendipité. Il fait usage de la sérendipité. Alors, juste pour terminer sur la sérendipité, on a mis ça comme titre avec Prune Nourrie, donc pour ce livre qui est en fait un corpus de ses œuvres. C'est-à-dire que moi, j'ai participé à une première œuvre qui était un repas procréatif à Genève. Donc, on me téléphone, une jeune femme de... Bon, elle est née en 85, donc là, je sais pas, elle avait à cette époque-là à peu près 23 ans, qui me dit, est-ce que vous êtes d'accord de faire avec moi un repas procréatif? Donc, vous voyez, vous dites, à Genève, quand même, c'est une ville protestante, enfin, il y a quelques difficultés à se lancer comme ça. Donc, là-dessus, elle m'explique qu'elle est une artiste et puis qu'elle fait un repas procréatif. C'est-à-dire qu'on choisit son spermatozoïde, on choisit son ovule, spermatozoïde de banquier, spermatozoïde de psychanalyste, spermatozoïde de prix Nobel, qu'on choisit l'ovule de top modèle, l'ovule d'hôtesse de l'air, enfin, il y a plein d'ovules à choix, mais vraiment de cet ordre-là. Puis ensuite, ils font un petit mélange, c'est l'apéritif, et après, on vous présente... des zygotes, des embryons. Vous passez, vous êtes dans une pièce, on vous enlève votre veste et tout, on vous met en habit vert, vous avez un scalpel, une pince chirurgicale, vous êtes sur une radiographie de femme enceinte, il y a des échographies au mur, il y a des femmes enceintes en photo, enfin, vous êtes dans une ambiance tout à fait particulière, et puis on vous donne ces petits embryons et on vous dit lequel vous choisissez. Il y a des étiquettes. Donc, un, c'est mi-sourd, l'autre, c'est légèrement déficient, l'autre, c'est manque un bras, l'autre, c'est myope. Enfin, voilà, ils ont chacun, quand même, un petit truc qui ne va pas. Et puis, il n'y en a aucun qui va bien. Donc là, vous devez choisir, n'est-ce pas? Et puis ensuite, on vous amène... le bébé, on vous amène le placenta. Manger le bébé, c'est spécialement compliqué. Enfin, il faut lui couper la tête ou lui couper parce qu'il est sous forme d'un fromage bleu ciel ou bien un fromage rose, dans un genre classique, n'est-ce pas? Et le vin est servi dans des flex-flaques d'hôpitaux, etc., etc., etc. Et à la fin, je devais faire un discours sur les sélections procréatives, parce que le thème de cette jeune femme, c'était la sélection procréative, c'est-à-dire le lien entre procréation et prédiction. Hein, qu'est-ce que, qui est au cœur du livre, c'est prédire l'enfant, hein, ce lien procréation-prédiction. Alors, là-dessus, c'est une grande aventure. Après, dans une logique que je n'avais pas imaginée à ce moment-là, elle est partie en Inde, pour la sélection des filles, des garçons, pardon, par rapport aux filles, la sursélection des garçons, où elle a fait des hybrides entre des vaches et des petites filles, avec la question pourquoi on protège les vaches qui sont sacrées et on sacrifie les petites filles. Elle a mis dans les rues de Bombay et tout ça, ces hybrides que vous voyez dans le livre, enfin, qui sont incroyables, qui sont formés d'une tête de vache et d'un corps de petite fille. Et ensuite, elle a fait des grandes statues qu'elle a mis dans le Gange, aussi avec la même, ce qu'on appelle hybride. Et après, elle est partie en Chine, je termine, avec les Terracotta Daughters, c'est-à-dire qu'elle a fait les petites filles à la place des soldats qui ont été trouvées, des petites filles en terre cuite par des artisans, avec une classe de petites filles qu'elle a reproduites et qu'elle a ensuite construit ces statues et elle les a enterrées dans un lieu secret en Chine qui sera réouvert en 2030, qui est le moment où la conséquence de la disproportion de l'imbalance, comme elle dit, entre garçons et filles, sera le plus grand en Chine. Et donc, elle a fait comme Antigone, quoi. C'est-à-dire, elle a pensé que c'était important que toutes ces filles qui ne sont pas nées, qui n'ont pas pu être conçues, qui ont été avortées, ou même qui auraient eu un infanticide, doivent trouver une place dans la culture par cet acte politique d'une artiste. Et plein d'autres choses. Prune Nourry est venue un jour avec un corpus d'œuvres déjà faites sous forme d'un livre de cette dimension, et elle a dit, écoutez, est-ce que vous voulez écrire sur ça? On a d'abord dit, ça s'appelle Mystery, parce que clinique de l'origine, l'origine est impensable, introuvable, Mystery. Après, on a dit Perplexity. Elle vit à New York, elle vit entre New York et Paris. Et puis, finalement, en écrivant, parce que les œuvres sont d'elle, et les textes, c'est moi qui les ai écrits, mais ce n'est pas des commentaires, c'est un corpus de textes qui se mêlent au corpus d'œuvres. Au fond, quand j'ai écrit tout ce dispositif de texte, je me suis dit, c'est un effet de sérendipity, c'est-à-dire la rencontre entre, entre nous, était aussi l'occasion pour moi de découvrir quelque chose. Ces artistes qui traitent de la procréation traitent aussi de la représentation de l'irreprésentable. Et que pour moi, c'est très important, le réel mis en jeu par l'artiste, le réel mis en jeu par la science et le réel mis en jeu par le psychanalyste. Le réel mis en jeu par le psychanalyste, avec peut-être le talent du psychanalyste, de se servir de ce réel mis en jeu. C'est comme ça que le terme de serendipity est devenu le titre de ce livre qui a été publié aux éditions Actes Sud. Je fais un petit ajout parce que, vous signalez quelque chose d'assez particulier, parce qu'il y a peut-être des sérendipities de vie et des sérendipities à risque. Et Prune Nourry, donc, on a publié ce livre, il y avait une grande expo, il a eu une carte blanche au musée Guimet. Avec ces œuvres que vous voyez dans le livre ont été mises par-ci, par-là, parmi les œuvres indiennes, orientales ou chinoises du musée Guimet. On a fêté tout ça. On a été aussi invité à Arles, chez donc l'éditeur, aux signatures et tout. Quelques années passent, là, enfin, pas beaucoup, enfin, là, c'est 2018. Prune Nourry, moi je pensais qu'elle n'allait pas le dire, mais enfin, a eu, elle qui a fait sans arrêt des saints, et des saints mêlés de façon hybride avec des pies de vache, elle a eu un cancer du sein. Et elle a fait tout de suite œuvre avec beaucoup d'angoisse de cette aventure, et ça m'a énormément touché parce que au bout de ce trajet, elle a fait un film que vous pouvez voir et qui est sorti en 2019. Enfin, j'ai fait une présentation de ce film à Paris vers le mois de novembre. Un film sur tout son trajet qui a pour titre Serendipity. Ça m'a beaucoup troublé qu'elle choisisse le même titre que notre livre. Pour son film sur ce dispositif. Là aussi, elle trouve une solution. Elle va bien, elle a très bien évolué. Là aussi, elle trouve une solution en construisant une Amazon énorme à New York. Et cette Amazon, elle est grimpée sur une échelle. Donc, elle avait le sein. Mais comme vous savez, les Amazones, pour tirer à l'arc, elles se coupent le sein. Donc, devant l'hôtel au sud de New York, là, qui est très branché à la mode, là, je ne sais plus le nom de cet hôtel, elle a cassé le sein, et dans une espèce de façon assez stupéfiante de se saisir de la contingence. Voilà, donc ça c'est sur le livre Serendipity avec Prune Nourry.
Ah bon, je vais te poser une question un peu courte. Dans ce livre, alors, je ne parle pas là de sérendipité, je parle de prédire l'enfant. Tu nous dis que la prédiction génétique permet de prédire l'origine, voire de la prévenir au sens de s'y opposer. Alors, en effet, elle permet que celui qui est l'objet de la prédiction génétique ne soit pas, un enfant ne naîtra pas, ou au contraire sera. Mais tu nous proposes là une nouvelle définition de l'origine, celle de la décision prise à la lumière de la prédiction génétique. Et tu nous as toujours rappelé que l'origine, enfin, nous savions aussi par d'autres voies, l'origine toujours sexuelle est impossible à penser par le sujet, de même que sa mort. Il y a une faille, un irreprésentable entre sexualité et procréation. Alors, dans cette faille viendrait la prédiction génétique qui nous propose alors une nouvelle version de l'origine. Donc, une question, cette médecine prédictive qui se veut au service de la vie, il me semble qu'elle repose sur une éradication de ces deux éléments les plus troublants pour l'être humain, c'est-à-dire son manque de savoir sur son origine sexuelle et sur sa mort. Alors, j'avais une question qui recoupe un peu ce que tu développes dans ce livre Sérendipité à propos des mythes. Et tu fais souvent référence au vertige de ces techniques. Effectivement, c'est un peu vertigineux de se demander est-ce qu'on assiste à la venue d'un nouveau Prométhée, alors que tous les bouleversements touchant au genre sexuel n'annoncent pas le retour de Pandora. Voilà, c'est une question. Bon, tu évoques effectivement tous ces vertiges, mais je souligne que tu n'hésites pas à t'y engouffrer. Mais c'est pour faire valoir en quoi la position du psychanalyste s'oppose à tout assujettissement à ce vertige. Voilà, une première question.
Oui, effectivement, le vertige est un terme qui me permet, d'ailleurs je suis venu à Bordeaux en conférence des échanges pour parler des vertiges. Vertige de l'origine, vertige de la différence, vertige de la prédiction. J'avais choisi à cette époque le terme vertige avec ceux qui m'avaient invité. Et ce terme vertige est au centre du livre La fabrication des enfants et fait même le plan de ce livre qui est plus ou moins issu de ses préoccupations à Bordeaux. Le vertige, pourquoi ? Parce qu'en même temps, le vertige angoisse. Pour ceux qui ont le vertige, ça crée une angoisse. Mais le vertige aussi attire, fascine. Et je pense que c'est même cette fascination qui angoisse. Pour ceux qui ont le vertige de l'altitude, il y a toujours cette dimension d'être presque attiré avec l'idée de sauter, quoi. D'où l'angoisse. Alors, effectivement, ta question, elle est très bien posée et elle va presque au-delà de ce que j'ai pensé dire ou voulu dire. C'est-à-dire que le livre, il est construit sur deux parties. Une qui est prédire l'origine et l'autre qui est l'origine après coup. Alors, dans l'idée de prédire l'origine, effectivement, il y a un risque majeur de la prédiction de l'origine qui fait que l'origine pouvant être d'une certaine manière prédite, il n'y ait plus d'origine, quoi, parce qu'il y a une décision de ne pas concevoir ou de ne pas poursuivre la grossesse, mais même au niveau de la conception. Le comité d'éthique, dans son avis 129 sur les lois de bioéthique, qui faisait suite à l'avis sur les demandes sociétales de procréation, a admis le diagnostic préconceptionnel. Ça veut dire... un homme et une femme peuvent faire un diagnostic préconceptionnel pour connaître le patrimoine génétique en jeu. historiquement, il y avait des patrimoines financiers, des grands châteaux pouvaient s'associer, des territoires pour avoir plus de potentialité dans la descendance. Maintenant, on va peut-être transformer le patrimoine classique par devant notaire à un patrimoine génétique. Peut-être que sur Tinder, à la place d'avoir la photo d'une femme ou d'un homme qu'on décide ou pas de rester en contact, on aura son génome. Et on va dire, non mais mon pauvre type, franchement, vous avez vu là, c'était adénine, cytosine, guanine, mal placée dans vos séquences génétiques. Ou bien c'est les parents qui vont dire ça. Ou alors c'est la société qui va dire ça. Parce qu'effectivement, si vous faites le diagnostic préconceptionnel, on pourrait avoir, au fond, une certaine tendance à demander que ça soit fait. C'est-à-dire que la place du hasard pourrait se trouver mise en parenthèse. Je précise. Les demandes sociétales de procréation, c'est pour les femmes seules, les couples de femmes, les hommes seuls, les couples d'hommes, les transgenres, et les n'est-ce pas ? Et la procréation chez les transgenres, la préservation de fertilité. Au fond, quelque chose qui pourrait être vu ou qui a été vu comme des marges. Mais dans ce cadre-là, dans la procréation, dans ce type de procréation, il y a inévitablement la nécessité d'un usage d'assistance médicale à la procréation. Donc, une sorte de banalisation des technologies. Donc, les futurs marginaux, c'est qui ? C'est les hétérosexuels qui vont être mis au banc de la société parce qu'ils procréent à leur gré, comme ils veulent, dans un hôtel, l'après-midi, sans demander à la faculté de médecine, sans analyse, sans prédiction de l'origine. Vous voyez ? Alors, je force, il est clair que je force le trait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il pourrait y avoir une tentation de ça. C'est-à-dire, si on veut procréer à l'ère de la génomique, en prenant tous les risques, sans se poser des questions, on pourrait avoir un système de santé qui ne fonctionne plus de la même manière et qui commence à discriminer, à stratifier les populations entre eux et nous, entre ceux qui sont atteints et ceux qui ne sont pas atteints. On achètera des assurances dans des pays qui n'ont pas la chance, comme la France, d'avoir un système pour tous. On a les assurances privées, ça va être comme les voitures, quoi. C'est-à-dire, on va dire, voilà, vous pouvez absolument faire un enfant avec risque de mucoviscidose, mais là, nous avons un contrat d'assurance plus cher avec la physiothérapie, l'antibiothérapie, etc., etc. Donc, on peut avoir tout le système de santé qui vient à éclater par le fait de la stratification entre eux et nous, par le fait de la prédiction de l'origine. Alors, la première partie du livre sur la prédiction de l'origine pointe cette question. Alors, Daniel Lacadet, dans sa question, va tout de suite, comme je la connais, enfin, très, très au centre et de façon... voilà, parce qu'au fond, on s'est dit, au cœur de ça, il y a effectivement, d'un côté, il y a le rapport au hasard. C'était d'ailleurs déjà dit dans le film, le fameux film Gattaca, Bienvenue à Gattaca. Les parents sidérés quand on leur propose une procréation génétique bien organisée pour ne pas avoir des problèmes qu'ils ont avec leur premier enfant conçu dans une voiture sur une plage par la méthode artisanale. Là, c'est à l'hôpital, c'est le petit garçon joue avec une hélice, une double hélice là, de l'ADN. Qui est mise en Lego, un truc, et puis le généticien, qui est un noir chauve, dit on a prévu des tas de choses gênantes, comme la calvitie, enfin, il y a beaucoup d'humour, etc. Puis les parents disent, ah, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un peu une place pour le hasard ? Puis lui dit, bon, le généticien répond, oui, mais il y aura déjà assez de problèmes dans la vie pour qu'on fasse au mieux lors de la procréation. Mais aujourd'hui, il y a cette histoire de prédire l'origine. Et prédire l'origine, que ce soit le diagnostic prénatal, bon, qui est connu, avec tout le débat de l'interruption médicale de grossesse, le deuil, n'est-ce pas, des enfants dont on décide, non pas pour une interruption volontaire de grossesse, qui est tout un autre monde, mais là, une interruption médicale de grossesse, ou bien les diagnostics préconceptionnels ou le diagnostic préimplantatoire, il y a une dimension de prédiction de l'origine qui, effectivement, met en jeu un fantasme sous-jacent, propre et le plus refoulé et peut-être le plus insupportable, qui est « On tue un enfant », comme Serge Leclerc avait titré un de ses livres avec ce fantasme « On tue un enfant ». Parce qu'au fond, vous prenez les mythes et la littérature, les contes, vous ne voyez que des enfants qu'on tue. Le massacre des innocents, les contes de fées, le conte du genévrier, le petit pousset, on n'a plus à manger, on va perdre les enfants, etc., etc. Donc là, dans prédire l'origine, effectivement, le point de butée, c'est la confrontation avec cette question-là majeure du fait qu'il y a une intrication entre le commencement et la mort, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une mort dans la procréation. Alors, j'ai mis ce chapitre, mais que je l'ai balancé avec l'autre, qui s'appelle « L'origine après coup ».
Alors, justement, Daniel Acadé-Labro parlait de prédire l'origine. J'aurais envie de revenir sur votre titre. Et pour dire aux personnes qui n'ont pas encore lu ce livre, combien votre énonciation est d'une grande finesse. Et d'emblée, ce qui m'a frappée, c'est que le titre présuppose un futur universel, celui qui couvre effectivement la prédiction génétique. Et dans le liminaire de votre livre, vous posez d'emblée la question « Prédire un enfant, est-ce possible aujourd'hui ?» Et très vite, c'est très remarquable, vous passez du titre « Prédire l'enfant » à « Prédire un enfant » dans votre liminaire. Parce que ça ouvre... certes, la question de l'origine, mais aussi la question de l'enfant, qui est là un objet dans ce champ ouvert des technologies du vivant. Et d'ailleurs, l'usage de prédire l'enfant est même un peu étrange, puisque prédire, c'est prédire quelque chose. Donc, prédire un enfant, ça ouvre interrogation. Et vous vous situez dans votre ouvrage, tout à fait au début, dans ce fameux chapitre dont vous venez de parler, vous ne situez pas l'enfant en tant qu'objet, et vous le dites, de ce qui le détermine, mais au contraire, vous le situez dans un prédire, en deux mots, qui se combine, et c'est ça qui est un trait passionnant de votre livre, à l'amalgame, vous dites, entre passé, présent et futur. Sans l'effet de sidération qui peut advenir à l'annonce d'une mauvaise prédiction. Prédire l'enfant, un enfant, au temps des possibles des technologies biomédicales et de la prédiction génétique, qu'est-ce que ça signifie ?
Merci pour cette deuxième question, aussi très, très pertinente par rapport effectivement au choix de ce titre. Le livre, il est construit entre l'origine après coup, entre le prédire l'origine et l'origine après coup. C'est-à-dire que l'origine se joue après coup. Il y a une phrase clé sur laquelle je fais reposer beaucoup de choses, puisqu'au fond, j'ai tout un trajet autour de la question de l'origine. C'est la phrase de Walter Benjamin qui dit « L'origine se prend dans le tourbillon du devenir. » C'est-à-dire, on est... Il y a aussi une phrase de Rilke. Oui. On est ici... Oui, on est... Oui, je peux vous la lire, peut-être, mais si je la retrouve, mais bon. On est ici, quelque part, mais provisoirement. Et cette naissance, au fond, on pourrait dire aussi cette origine, est sans cesse rejouée dans l'après-coup. Donc, l'origine, c'est maintenant. C'est-à-dire que l'origine, elle se joue au présent. C'est-à-dire qu'on n'a pas une origine qui serait un T0 perdu dans le temps qu'on dit quand commence la vie. Les généticiens, on leur demande ça, les médecins de la reproduction, est-ce que c'est le moment où la première cellule, le spermatozoïde pénètre dans l'ovule, la première division? Non. Le T0, il est entre T1 et T2. Le T0, il est à chaque instant du temps. Donc, à chaque instant, le sujet se rejoue son origine. La phrase, je vous la lis, de Rilke, « Nous naissons, pour ainsi dire, provisoirement quelque part, c'est peu à peu que nous composons en nous le lieu de notre origine pour y naître après coup et chaque jour plus définitivement. » Ça veut dire que l'origine, si on faisait comme un schéma, n'est-ce pas ? C'est-à-dire on aurait le temps 1 et le temps 2. Et puis entre le temps 1 et le temps 2, bon, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il faut dessiner. Un temps 1, temps 2 de la vie. Mettons une ligne. Et puis on regarde depuis le temps 2, le temps 1. Ça veut dire qu'on a un regard rétrospectif. Et dans ce regard rétrospectif, on trouve des explications. On trouve des explications et que ça, c'est le risque de la psychanalyse, c'est d'être que le psychanalyste devienne un spécialiste de la prédiction du passé. Parce qu'il voit depuis les choses passées. Hein? Donc ça, c'est comment on peut raisonner dans un raisonnement rétrospectif. T2, on regarde T1. Mais en même temps, dans la réalité, entre T1 et T2, il y a toujours un T0 qui est comme le temps de l'origine, où on se donne après coup une nouvelle origine. C'est une discontinuité fondamentale qui est au cœur de la construction de ce livre. C'est-à-dire que c'est là où on peut faire aller les choses complètement différemment. Hein ? On pourrait dire « la vie se comprend » en regardant le passé, mais elle se vit en regardant devant. Une analyse, elle peut être, elle doit aussi passer par des grands, comment est-ce qu'on appelle ça, des grands travelling, des grands panoramiques sur le passé. Mon papa, ma maman, mon frère, ma sœur, la société, voilà. Mais la responsabilité du sujet, sa réponse, elle se joue maintenant. Donc l'origine, c'est maintenant. Alors, à partir de là, le livre, donc je voulais l'appeler l'origine à venir. Qui, à mon avis, avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire que dans le présent, on décide de son avenir plus que le passé, à moins de situations très dramatiques. Donc, l'origine à venir. Il est vrai que ce titre que j'avais choisi n'était pas forcément immédiatement lisible sous cette forme-là, et que l'idée de la prédiction... Parce qu'au fond, c'est aussi une prédiction, c'est-à-dire prédire. Ouais. C'est-à-dire qu'on va dire maintenant ce qui va suivre. C'est pour ça que dans le liminaire, je cite ces conceptions sumériennes et chinoises du temps qui dit, n'est-ce pas, nous avons l'idée que le passé est derrière. Voilà d'où je viens. Et que le futur est devant. Et dans la langue, par exemple en chinois, dans les signes chinois, c'est l'inverse. C'est-à-dire le futur est devant, parce qu'on le passé, pardon, est devant, parce qu'on le voit, on le connaît. Et par contre, le passé est devant. Par contre, le futur nous surprend d'une certaine manière, comme s'il venait depuis derrière. Voilà, donc c'est un peu ça l'enjeu du titre prédire, qui est finalement peut-être plus calme que de faire un titre thèse, quoi, parce que le titre L'origine à venir, c'est donc vous dites l'origine à venir. Là, c'est même un livre petit, donc là, il est encore plus petit, quoi. On a compris quand je dis l'origine à venir et que l'origine, c'est fonction de la discontinuité, de la réponse, que c'est ça qui est en jeu dans une analyse, comme pratique non pas d'élaboration du passé, mais de construction du devenir. Mais au fond, là, prédire avait cette ambiguïté, est-ce qu'il fallait mettre un point d'interrogation, est-ce qu'il fallait mettre un trait d'union entre prêt et dire.
Ça me fait penser, juste sur prédire, avant de laisser Daniel poser une question, un mot d'une autre psychanalyste, Christiane Alberti, qui disait que la science analytique, enfin l'acte analytique, était une acuité spéciale. Et c'est vrai que dans la prédiction, ça rejoint le terme de sagacité, il y a une acuité spéciale à avoir pour sortir du poids dont vous parlez beaucoup, du futur antérieur, de ce futur antérieur qui est quand même massif, ouais. Et dont vous nous montrez qu'on peut très bien se défaire, même au temps de la biotechnologie.
Oui, c'est vrai que le futur antérieur... c'est un autre, enfin, c'est le temps de l'origine, quoi. C'est tu auras été cet enfant-là, donc qui est un temps grammatical troublant que on apprend à l'école, mais qui est finalement le temps peut-être du devenir en tant que tel. Et oui, enfin, dont Lacan a lui-même très bien parlé dans. Dans les écrits, dans le rapport de Rome, enfin, fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse, où je suis pas sûr, là je vais juste voir, mais ok.
Si, si.
Oui, par rapport à. À ce qui est prédictible ou pas. Alors, effectivement, en génétique, moi, je n'y connais pas grand-chose, mais il y a quand même l'épigénétique qui vient faire que la prédiction, l'épigénétique, c'est-à-dire tout ce qui peut transformer les gènes, tout l'environnement, etc., fait que la prédiction n'est pas sûre. Il y a toujours une probabilité qui est confirmée par les statistiques. Je parle de ça parce que tu dis que le malentendu ouvre. Voilà, il y a un malentendu dans la prédiction, puisqu'il y a ces probabilités-là. Mais tu dis que le malentendu ouvre à l'inattendu. C'est-à-dire que quelque chose va se passer ou pas se passer. Mais l'intérêt de ton livre, c'est ta position. C'est ta position de psychanalyste. C'est de souligner que l'inattendu n'est pas seulement l'inattendu dans la prédiction génétique, dans ce qui va se passer. Mais que l'inattendu, c'est effectivement ce qui va se passer quand quelqu'un va s'adresser à toi. Et que dans le fond, ta position, ce n'est pas d'adapter l'enfant ou les parents qui consultent, ce n'est pas de les adapter à la prédiction, mais de faire en sorte que le malentendu surgisse de ce qu'ils disent.
Oui, merci effectivement de cette possibilité de préciser les choses. C'est-à-dire qu'on peut dire il y a une détermination génétique. C'est juste qu'il y a une détermination, il y a une modulation épigénétique, c'est-à-dire par l'effet de l'environnement qui modifie la méthylation du DNA et donc modifie les caractéristiques du génome qui, au fond, fait une modulation de l'expressivité et de la pénétrance des gènes par les facteurs de l'environnement. Donc, qui est affranchi d'un certain déterminisme génétique. Mais, en même temps, il ne faut pas se leurrer, c'est un autre type de déterminisme. C'est-à-dire que le déterminisme génétique, c'est les gènes qu'on connaît parce que ça fait beaucoup partie de notre éducation et scolaire. Mais l'épigénétique, ça a souvent été présenté comme une alternative à la génétique. C'est juste parce que ça modifie la pénétrance et l'expressivité des gènes, mais c'est un autre type de détermination qui suit la même logique. la détermination épigénétique. En plus qu'on sait que les traces épigénétiques, les marques épigénétiques, peuvent, dans certaines situations, se transmettre entre les générations. Par exemple, suite à des traumatismes majeurs. Il y a des modifications de la méthylation du DNA et qu'on retrouve ensuite dans les générations suivantes. Donc, quand un enfant est victime de violences, de migrations, qu'il est isolé, qu'il voit mourir ses parents sur un bateau et qu'on se noie autour de lui, il vit des traumatismes majeurs qui ne touchent pas seulement cet enfant, mais toute la société qui va dériver ensuite de cet enfant. Donc c'est très important aussi de ce côté-là de l'épigénétique. Mais c'est également une vision très déterministe. En plus, il y a le discours social, politique, qui est aussi très déterministe. C'est-à-dire tel parent, tel enfant, tel facteur économique, socio-économique, tel destin. Vous voyez ? Donc là, on a des déterminations génétiques, des déterminations épigénétiques, même s'il y a des interactions. Il y a aussi des interactions entre gènes qui fait échapper les... Voilà. Mais déterminations génétiques, déterminations épigénétiques, des déterminations historiques, sociales et politiques qui font aussi l'objet de beaucoup de préoccupations des sociétés sur les facteurs de risque, sur l'organisation du système social, sanitaire, etc., sur ces choses. Donc là, bon, il n'y a pas de sujet. Tout le monde est déterminé. On est une partition déjà jouée. Alors que, pour moi, le message de la psychanalyse, c'est de dire que perpendiculairement à ces déterminants, il y a la réponse du sujet, la responsabilité. Quand on voit un enfant, bien sûr, on peut le voir par rapport à ce qu'il détermine. Je ne suis pas naïf. S'il est de parents alcooliques, une mère toxicomane, que le père a tué la mère, qu'il est né en prison et que voilà, donc il a été battu et abusé sexuellement, ben je veux dire, c'est pas tout simple d'advenir, mais ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a une place pour la réponse et que nous sommes des praticiens de la réponse pour ouvrir l'espace à la réponse du sujet. Or, c'est ça le paradoxe. La biologie, la neurobiologie, la génétique montrent que la question, c'est que, bien sûr, l'expérience laisse une trace dans le réseau neuronal, comme la plasticité, mais les traces se réassocient les unes avec les autres pour former de nouvelles traces qui sont en discontinuité avec les traces premières. Ça veut dire qu'il y a une discontinuité, il y a un changement, il y a une possibilité de changement. De même, en génétique, il y a toute la question génétique, épigénétique, des interactions entre gènes, des modulations qui font aussi que la question de la génétique aujourd'hui, ce n'est pas tellement la répétition du même, c'est la production de la différence. Parce que c'est plus facile de comprendre qu'on serait tous les mêmes que de comprendre qu'on est à ce point-là tous différents. Donc, ça dépend d'autres choses. Donc, on est déterminé, moi je dis souvent, biologiquement déterminé pour ne pas être totalement biologiquement déterminé.
C'est bien, ça peut sortir du piège de la causalité exclusive dont vous parlez. C'est un point important.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a, cet espace, il y a cette discontinuité, il y a cette potentialité et qu'il faut préserver à tout prix, qu'il faut lutter par rapport à cette potentialité qui existe. Sans ça, il n'y aurait pas d'évolution, il n'y aurait même pas de développement. Donc c'est pour ça qu'on peut se dire qu'on a été dans un paradigme scientiste complètement non congruent avec la science, qui butait sur les défauts de détermination qu'on a pris politiquement comme des déterminations. Et là, cette œuvre de la discontinuité. Il y a une autre citation, puisque des fois, c'est comme des pierres d'attente, des citations de René Char que j'ai mis dans ce livre, où il dit qu'il y a il parle d'enclaves d'inattendu. C'est dans les feuillets d'hypnose. D'enclaves d'inattendu qu'il faut défendre à tout prix. Et c'est une réflexion pendant la guerre. Je sais pas, il résiste, il est quelque part dans le maquis et tout. Et puis il dit, on dit que l'homme serait totalement déterminé par ses gènes, par des facteurs de l'environnement, par l'histoire. Mais au fond, dans tout cela, il y a des enclaves d'inattendus dont il faut défendre l'accès absolument.
Et donc le rôle du psychanalyste ?
Le rôle du psychanalyste, c'est de se servir de la contingence, c'est de se servir d'inattendu, c'est de se servir du défaut de détermination. Et moi, je pense que c'est une grande responsabilité de la psychanalyse, puisqu'elle a pu avoir certaines tendances, il faut quand même l'admettre, d'être prise dans la causalité naturelle du 19e, avec des raisonnements qui ne sont pas faux, mais qui ne mettent la focalisation sur la détermination déjà jouée et pas sur le défaut de détermination. Donc le psychanalyste, c'est un praticien de l'imprévisible, c'est un praticien de l'inattendu, c'est un praticien de la contingence, c'est l'artiste de la sérendipité.
Écoute, ça me gêne de dire ça à un Suisse, mais il est temps de s'arrêter. Donc merci beaucoup François, Daniel et Martine pour cette animation.